Chapitre 8. Comment Bussy retrouva à la fois le portrait et l'original, ce que c'était que Diane de Méridor. La chasse se fut terminée vers les 4 heures du soir, et à 5 heures, comme si le roi avait prévu les désirs du duc d'Anjou, toute la cour rentrait à Paris par le faubourg Saint-Antoine. Monsieur de Montsoreau, sous le prétexte de partir à l'instant même, avait pris congé des princes et se dirigeait avec ses équipages vers Fontainebleau. En passant devant la Bastille, le roi fit remarquer à ses amis la fière et sombre apparence de la forteresse. C'était un moyen de leur rappeler ce qui les attendait et si par hasard, après avoir été ses amis, ils devenaient ses ennemis. Beaucoup comprirent et redoublèrent de déférence envers sa majesté. Pendant ce temps, le duc d'Anjou disait tout bas à Bussy qui marchait à ses côtés, « Regarde bien, Bussy, regarde bien à droite cette maison de bois qui abrite sous son pignon une petite statue de la Vierge. Suis de l'œil la même ligne et compte la maison à la Vierge comprise, 4 autres maisons. »« Bien, dit Bussy. C'est la 5e, dit le duc, celle qui est juste en face de la rue Sainte-Catherine. » Je la vois, monseigneur. Tenez, voici, au bruit de nos trompettes qui annoncent le roi, toutes les maisons qui se garnissent de curieux. Excepté celle que je t'indique, cependant, dit le duc, dont les fenêtres demeurent fermées. Mais dont un coin de rideau s'entr'ouvre, dit Bussy, avec un effroyable battement de cœur. Sans que toutefois on puisse rien apercevoir. Oh, la dame est bien gardée, ou se garde bien. En tout cas, voici la maison. À l'hôtel, je t'en donnerai la clé. » Bussy darda son regard par cette étroite ouverture, mais quoique ses yeux restassent constamment fixés sur elle, il ne vit rien. En rentrant à l'hôtel d'Anjou, le duc donna effectivement à Bussy la clé de la maison désignée, en lui recommandant de nouveau de faire bonne garde. Bussy promit tout ce que voulait le duc et repassa par l'hôtel. « Eh bien, dit-il à Remy, je vous ferai la même question, monseigneur. Tu n'as rien trouvé? La maison était aussi inabordable le jour que la nuit. Je flotte entre 5 ou 6 maisons qui se touchent. Alors, dit Bussy, je crois que j'ai été plus heureux que toi, mon cher le Haudouin. Comment cela, monseigneur? Vous avez donc cherché de votre côté? Non, je suis passé dans la rue seulement. Et vous avez reconnu la porte? La Providence, mon cher ami, a des voies détournées et des combinaisons mystérieuses. Alors, vous êtes sûr? Je ne te dis pas que je suis sûr, mais j'espère. Et quand saurai-je si vous avez le bonheur de trouver ce que vous cherchiez? Demain matin. En attendant, avez-vous besoin de moi? Aucunement, mon cher Remy. Vous ne voulez pas que je vous suive? Impossible. Soyez prudent au moins, monseigneur. « Ah, dit Bussy, la recommandation est inutile, je suis connu pour cela. » Bussy dîna, en homme qui ne sait pas où ni de quelle façon il soupera. Puis, à 8 heures sonnant, il choisit la meilleure de ses épées, attacha, malgré l'ordonnance que le roi venait de promulguer, une paire de pistolets à sa ceinture et se fit porter dans sa litière à l'extrémité de la rue Saint-Paul. Arrivé là, il reconnut la maison à la statue de la Vierge, compta les 4 maisons suivantes, s'assura bien que la 5e était la maison désignée, et alla, enveloppé dans un grand manteau de couleur sombre, se blottir à l'angle de la rue Sainte-Catherine, bien décidé à attendre 2 heures, et au bout de 2 heures, si personne ne venait à agir pour son propre compte. 9 heures sonnaient à Saint-Paul comme Bussy s'embusquait. Il était là depuis 10 minutes à peine quand, à travers l'obscurité, il vit arriver par la porte de la Bastille 2 cavaliers. À la hauteur de l'hôtel des Tournelles, ils s'arrêtèrent. L'un d'eux mit pied à terre, jeta la bride aux mains du second, qui, selon toute probabilité, était un laquais, et après lui avoir vu reprendre le chemin par lequel ils étaient venus, après l'avoir vu se perdre, lui et ses 2 chevaux, dans l'obscurité, il s'avança vers la maison, confié à la surveillance de Bussy. Arrivé à quelques pas de la maison, l'inconnu décrivit un grand cercle, comme pour explorer les environs du regard. Puis, croyant être sûr qu'il n'était point observé, il s'approcha de la porte et disparut. Bussy entendit le bruit de cette porte qui se refermait derrière lui. Il attendit un instant, de peur que le personnage mystérieux ne fût resté en observation derrière le guichet, Puis quelques minutes s'étant écoulées, il s'avança à son tour, traversa la chaussée, ouvrit la porte et, instruit par l'expérience, il la referma sans bruit. Alors il se retourna. Le guichet était bien à la hauteur de son œil, et c'était bien, selon toute probabilité, par ce guichet qu'il avait regardé Quélus. Ce n'était pas tout, et Bussy n'était pas venu pour rester là. Il s'avança lentement, tâtonnant aux deux côtés de l'allée, au bout de laquelle, à gauche, il trouva la première marche d'un escalier. Là, il s'arrêta, pour deux raisons. D'abord, il sentait ses jambes faiblir sous le poids de l'émotion. Ensuite, il entendait une voix qui disait « Gertrude, prévenez votre maîtresse que c'est moi et que je veux entrer. » La demande était faite d'un ton trop impératif pour souffrir un refus. Au bout d'un instant, Bussy entendit une voix de femme de chambre qui répondait « Passez au salon, monsieur, madame va venir vous y rejoindre. » Et puis il entendit encore le bruit d'une porte qui se refermait. Bussy alors pensa aux 12 marches qu'avait comptées Remy. Il compta 12 marches à son tour et se trouva sur le palier. Il se rappela le corridor et les 3 portes, fit quelques pas en retenant sa respiration et en étendant la main devant lui. Une première porte se trouva sous sa main, c'était celle par laquelle l'inconnu était entré. Il poursuivit son chemin, en trouva une seconde, chercha, sentit une seconde clé, et tout frissonnant des pieds à la tête, il fit tourner cette clé dans la serrure et poussa la porte. La chambre dans laquelle se trouva Bussy était complètement obscure, moins la portion de cette chambre qui recevait, par une porte latérale, un reflet de lumière du salon. Ce reflet portait sur une fenêtre tendue des 2 rideaux de tapisserie, qui firent passer un nouveau frisson de joie dans le cœur du jeune homme. Ses yeux se portèrent sur la partie du plafond éclairée par cette même lumière, et il reconnut le plafond mythologique qu'il avait déjà remarqué. Il étendit la main et sentit le lit sculpté. Il n'y avait plus de doute pour lui, il se retrouvait dans cette chambre où il s'était réveillé pendant cette nuit où il avait reçu la blessure qui lui avait valu l'hospitalité. Ce fut un bien autre frisson encore qui passa par les veines de Bussy lorsqu'il toucha ce lit et qu'il sentit, tout enveloppé de ce délicieux parfum qui s'échappe de la couche d'une femme si jeune et si belle. Bussy s'enveloppa dans les rideaux du lit et écouta. On entendait dans la chambre à côté le pas impatient de l'inconnu. De temps en temps, il s'arrêtait, murmurant entre ses dents « Eh bien, viendra-t-elle ? » À la suite de l'une de ces interpellations, une porte s'ouvrit dans le salon. La porte semblait parallèle à celle qui était déjà entr'ouverte. Le tapis frémit sous la pression d'un petit pied, le frôlement d'une robe de soie arriva jusqu'à l'oreille de Bussy, et le jeune homme entendit une voix de femme, empreinte à la fois de crainte et de dédain, qui disait « Me voici, monsieur, que voulez-vous encore ?»« Oh !» pensa Bussy, en s'abritant sous son rideau. Si cet homme est l'amant, je félicite fort le mari. Madame, dit l'homme à qui l'on avait fait cette froide réception, j'ai l'honneur de vous prévenir que, forcé de partir demain matin pour Fontainebleau, je viens passer cette nuit près de vous. M'apportez-vous des nouvelles de mon père? Demanda la même voix de femme. Madame, écoutez-moi. Monsieur, vous savez ce qui a été convenu hier quand j'ai consenti à devenir votre femme. C'est qu'avant toute chose, ou mon père viendrait à Paris, ou j'irai retrouver mon père. Madame, aussitôt après mon retour de Fontainebleau, nous partirons. Je vous en donne ma parole d'honneur. Mais en attendant, monsieur, ne fermez pas cette porte, c'est inutile. Je ne passerai pas une nuit, pas une seule nuit, sous le même toit que vous, que je ne sois rassuré sur le sort de mon père. Et la femme qui parlait d'une façon si ferme souffla dans un petit sifflet d'argent qui rendit un son aigu et prolongé. C'était la manière dont elle l'appelait ses domestiques à cette époque où les sonnettes n'étaient point encore inventées. Au même instant, la porte par laquelle était entré Bussy s'ouvrit de nouveau et donna passage à la suivante de la jeune femme. C'était une grande et vigoureuse fille d'Anjou, qui paraissait attendre cet appel de sa maîtresse et qui, l'ayant entendu, se hâtait d'accourir. Elle entra dans le salon et, en entrant, elle ouvrit la porte. Un jet de lumière pénétra alors dans la chambre où était Bussy, et entre les 2 fenêtres, il reconnut le portrait. Gertrude, dit la dame, vous ne vous coucherez point, et vous vous tiendrez toujours à la portée de ma voix. La femme de chambre se retira sans répondre, par le même chemin qu'elle était venue, laissant la porte du salon toute grande ouverte et par conséquent le merveilleux portrait éclairé. Pour Bussy, il n'y avait plus de doute, ce portrait, c'était bien celui qu'il avait vu. Il s'approcha doucement pour coller son œil à l'ouverture que l'épaisseur des gonds laissait entre la porte et la muraille, mais si doucement qu'il marcha, au moment où son regard pénétrait dans la chambre, le parquet cria sous son pied. À ce bruit, la femme se retourna. C'était l'original du portrait, c'était la fée du rêve. L'homme, quoiqu'il n'eût rien entendu, en la voyant se retourna aussi. C'était le seigneur de Montsoreau. « Ah, dit Bussy, la haquenée blanche, la femme enlevée, je vais sans doute entendre quelque terrible histoire. » Et il essuya son visage qui, spontanément, venait de se couvrir de sueur. Bussy, nous l'avons dit, les voyait tous deux, elle pâle, debout et dédaigneuse, lui aussi, non point pâle, mais livide, agitant son pied impatient et se mordant la main. « Madame, dit enfin le seigneur de Montsoreau, n'espérez pas continuer longtemps avec moi à ce rôle de la femme persécutée et victime. Vous êtes à Paris, vous êtes dans ma maison, et de plus, vous êtes maintenant la comtesse de Montsoreau, c'est-à-dire ma femme. Si je suis votre femme, pourquoi refuser de me conduire à mon père? Pourquoi continuer de me cacher aux yeux du monde? Vous avez oublié le duc d'Anjou, madame. » Vous m'avez affirmé qu'une fois votre femme, je n'avais plus rien à craindre de lui. C'est-à-dire, vous m'avez affirmé cela. Mais encore, madame, faut-il que je prenne quelques précautions. Eh bien, monsieur, prenez ces précautions et revenez me voir quand elles seront prises. Diane, dit le comte, au cœur duquel la colère montait visiblement, Diane, ne faites pas un jeu de ce lien sacré du mariage. C'est un conseil que je veux bien vous donner. Faites, monsieur, que je n'ai plus de défiance dans le mari, et je respecterai le mariage. Il me semblait cependant avoir, par la manière dont j'ai agi envers vous, mérité toute votre confiance. Monsieur, je pense que dans toute cette affaire, mon intérêt ne vous a pas seul guidé, ou que, s'il en est ainsi, le hasard vous a bien servi. « Oh, c'en est trop !» s'écria le comte. « Je suis dans ma maison, vous êtes ma femme, et dû l'enfer vous venir en aide, cette nuit même vous serez à moi !» Bussy mit la main à la garde de son épée et fit un pas en avant, mais Diane ne lui donna pas le temps de paraître. « Tenez, dit-elle, en tirant un poignard de sa ceinture, voilà comme je vous réponds. » Et bondissant dans la chambre où était Bussy, elle referma la porte, poussa le double verrou et, tandis que Montsoreau s'épuisait en menaces, heurtant les planches du poing, « Si vous faites seulement sauter une parcelle de bois de cette porte, dit Diane, vous me connaissez, monsieur, vous me trouverez morte sur le seuil. » « Et soyez tranquille, madame, dit Bussy, en enveloppant Diane de ses bras, vous auriez un bras vengeur. » Diane fut près de pousser un cri, mais elle comprit que le seul danger qui la menaça lui venait de son mari. Elle demeura donc sur la défensive, mais muette, tremblante, mais immobile. Monsieur de Montsoreau frappa violemment du pied, puis, convaincu sans doute que Diane exécuterait sa menace, il sortit du salon en repoussant violemment la porte derrière lui. Puis on entendit le bruit de ses pas s'éloigner dans le corridor et décroître dans l'escalier. « Mais vous, monsieur, dit alors Diane en se dégageant des bras de Bussy et en faisant un pas en arrière, et qui êtes-vous, et comment vous trouvez-vous ici ?»« Madame, dit Bussy, en rouvrant la porte et en s'agenouillant devant Diane, je suis l'homme à qui vous avez conservé la vie. Comment pourriez-vous croire que je suis entré chez vous dans une mauvaise intention ou que je forme des desseins contre votre honneur ?» Grâce au flot de lumière qui inondait la noble figure du jeune homme, Diane le reconnut. « Oh, vous, monsieur, ici » s'écria-t-elle en joignant les mains. « Vous étiez là, vous avez tout entendu ?»« Hélas, oui, madame. Mais qui êtes-vous? Votre nom, monsieur ?»« Madame, je suis Louis de Clermont, comte de Bussy. » « Bussy, vous êtes le brave Bussy ?» s'écria naïvement Diane, sans se douter de la joie que cette exclamation répandait dans le cœur du jeune homme. « Ah, Gertrude » continua-t-elle en s'adressant à sa suivante, qui, ayant entendu sa maîtresse parler avec quelqu'un, entrait tout effarée. « Gertrude, je n'ai plus rien à craindre, car à partir de ce moment, je mets mon honneur sous la sauvegarde du plus noble et du plus loyal gentilhomme de France. » Puis, tendant la main à Bussy, relevez-vous, monsieur, dit-elle, je sais qui vous êtes, il faut que vous sachiez qui je suis. Bussy se releva, tout étourdi de son bonheur, et entra avec Diane dans le salon que venait de quitter monsieur de Montsoreau. Il regardait Diane avec l'étonnement de l'admiration. Il n'avait pas osé croire que la femme qu'il cherchait pût soutenir la comparaison avec la femme de son rêve, et voilà que la réalité surpassait tout ce qu'il avait pris pour un caprice de son imagination. Diane avait 18 ou 19 ans, c'est-à-dire qu'elle était dans ce premier éclat de la jeunesse et de la beauté qui donne son plus pur coloris à la fleur, son plus charmant velouté aux fruits. Il n'y avait pas à se tromper à l'expression du regard de Bussy. Diane se sentait admirée et elle n'avait pas la force de tirer Bussy de son extase. Enfin, elle comprit qu'il fallait rompre ce silence qui disait trop de choses. Monsieur, dit-elle, vous avez répondu à l'une de mes questions, mais point à l'autre. Je vous ai demandé qui vous êtes, et vous me l'avez dit, mais j'ai demandé aussi comment vous vous trouvez ici, et à cette demande, vous n'avez rien répondu. Madame, dit Bussy, avec quelques mots que j'ai surpris de votre conversation avec monsieur de Montsoreau, j'ai compris que les causes de ma présence ressortiraient tout naturellement du récit que vous avez bien voulu me promettre. Ne m'avez-vous pas dit de vous-même tout à l'heure que je devais savoir qui vous étiez? Oui, comte, je vais tout vous raconter, répondit Diane. Votre nom à vous m'a suffi pour m'inspirer toute confiance, car votre nom, je l'ai entendu souvent redire comme le nom d'un homme de courage, à la loyauté et à l'honneur duquel on pouvait tout confier. Bussy s'inclina. Pour le peu que vous avez entendu, dit Diane, vous avez pu comprendre que j'étais la fille du baron de Méridor, c'est-à-dire que j'étais la seule héritière d'un des plus nobles et des plus vieux noms de l'Anjou. Il y eut, dit Bussy, un baron de Méridor qui, pouvant sauver sa liberté à Pavie, vint rendre son épée aux Espagnols lorsqu'il sut le roi prisonnier et qu'ayant demandé pour toute grâce d'accompagner François Ier à Madrid, partagea sa captivité et ne le quitta que pour venir en France traiter de sa rançon. C'est mon père, monsieur, et si jamais vous entrez dans la grande salle du château de Méridor, vous verrez donner en souvenir de ce dévouement le portrait du roi François Ier de la main de Léonard de Vinci. Ah, dit Bussy, dans ce temps-là, les princes savaient encore récompenser leurs serviteurs. À son retour d'Espagne, mon père se maria. Deux premiers enfants, deux fils moururent. Ce fut une grande douleur pour le baron de Méridor, et qui perdait l'espoir de se voir revivre dans un héritier. Bientôt le roi mourut à son tour, et la douleur du baron se changea en désespoir. Il quitta la cour quelques années après, et vint s'enfermer avec sa femme dans son château de Méridor. C'est là que je naquis, comme par miracle, 10 ans après la mort de mes frères. Alors tout l'amour du baron se reporta sur l'enfant de sa vieillesse. Son affection pour moi n'était pas de la tendresse, c'était de l'idolâtrie. 3 ans après ma naissance, je perdis ma mère. Certes, ce fut une nouvelle angoisse pour le baron, mais trop jeune pour comprendre ce que j'avais perdu, je ne cessais pas de sourire, et mon sourire le consola de la mort de ma mère. Je grandis, je me développais sous ses yeux, comme j'étais tout pour lui, lui aussi, pauvre père, il était tout pour moi. J'atteignis ma 16e année, sans me douter qu'il y eût un autre monde que celui de mes brebis, de mes paons, de mes cygnes et de mes tourterelles, sans songer que cette vie dût jamais finir, et sans désirer qu'elle finît. Le château de Méridor était entouré de vastes forêts appartenant à monsieur le duc d'Anjou. Elles étaient peuplées de daims, de chevreuils et de cerfs que personne ne songeait à tourmenter, et que le repos dans lequel on les rendait laissait familiers. Tous étaient plus ou moins de ma connaissance. Quelques-uns étaient si bien habitués à ma voix qu'ils accouraient quand je les appelais. Une biche, entre autres, ma protégée, ma favorite, Daphné, pauvre Daphné, venait manger dans ma main. Un printemps, je fus un mois sans la voir. Je la croyais perdue et je l'avais pleurée comme une amie, quand tout à coup, je la vis reparaître avec deux petits fans. D'abord, les petits eurent peur de moi, mais en voyant leur mère me caresser, ils comprirent qu'ils n'avaient rien à craindre et vinrent me caresser à leur tour. Vers ce temps, le bruit se répandit que monsieur le duc d'Anjou venait d'envoyer un sous-gouverneur dans la capitale de la province. quelques jours après, on sut que ce sous-gouverneur venait d'arriver et qu'il se nommait le comte de Montsoreau. Pourquoi ce nom me frappa-t-il quand je l'entendis prononcer? Je ne puis m'expliquer cette sensation douloureuse que par un pressentiment. 8 jours s'écoulèrent. On parlait fort et fort diversement dans tout le pays du seigneur de Montsoreau. Un matin, les bois retentirent du son du cor et de la voix des chiens. Je courus jusqu'à la grille du parc et j'arrivai tout juste pour voir passer, comme l'éclair, Daphné poursuivie par une meute. Ses deux fans la suivaient. Un instant après, monté sur un cheval noir qui semblait avoir des ailes, un homme passa, pareil à une vision. C'était Monsieur de Montsoreau. Je voulus pousser un cri, je voulus demander grâce pour ma pauvre protégée, mais il n'entendit pas ma voix ou n'y fit point attention tant il était emporté par l'ardeur de sa chasse. Alors, sans m'occuper de l'inquiétude que j'allais causer à mon père, s'il s'apercevait de mon absence, je courus dans la direction où j'avais vu la chasse s'éloigner. J'espérais rencontrer soit le comte lui-même, soit quelques-uns des gens de sa suite, et les supplier d'interrompre cette poursuite qui me déchirait le cœur. Je fis une demi-lieue, courant ainsi sans savoir où j'allais. Depuis longtemps, biches, meutes et chasseurs, j'avais tout perdu de vue. Bientôt je cessai d'entendre les abois, je tombai au pied d'un arbre et je me mis à pleurer. J'étais là depuis un quart d'heure à peu près, quand, dans le lointain, je crus distinguer le bruit de la chasse. Je ne me trompais point, ce bruit se rapprochait de moment en moment, et un instant il fut à si peu de distance que je ne doutais point que la chasse ne dût passer à portée de ma vue. Je me levai aussitôt, et je m'élançai dans la direction où elle s'annonçait. En effet, je vis passer dans une clairière la pauvre Daphné haletante. Elle n'avait plus qu'un seul faon, l'autre avait succombé à la fatigue et sans doute avait été déchirée par les chiens. Elle-même se lassait visiblement. La distance entre elle et la meute était moins grande que la première fois. Sa course s'était changée en élan saccadé et en passant devant moi, elle brama tristement. Comme la première fois, je fis de vains efforts pour me faire entendre. Monsieur de Montsoreau ne voyait rien que l'animal qu'il poursuivait. Il passa, rapide encore, plus rapide que je ne l'avais vu, le corps à la bouche et sonnant furieusement. Derrière lui, 3 ou 4 piqueurs animaient les chiens avec le corps et avec la voix. Ce tourbillon d'aboiements, de fanfares et de cris passa comme une tempête, disparut dans l'épaisseur de la forêt et s'éteignit dans le lointain. J'étais désespéré. Je me disais que si je m'étais trouvé seulement 50 pas plus loin, au bord de la clairière qu'il avait traversée, il m'eût vu, et alors, à ma prière, il eût sans doute fait grâce au pauvre animal. Cette pensée ranima mon courage. La chasse pouvait, une 3e fois, passer à ma portée. Je suivis un chemin tout bordé de beaux arbres, que je reconnus pour conduire au château de Beaugé. Ce château, qui appartenait à Monsieur le duc d'Anjou, était situé à 3 lieues à peu près du château de mon père. Au bout d'un instant, je l'aperçus, et seulement alors je songeai que j'avais fait 3 lieues à pied, et que j'étais seul et bien loin du château de Méridor. J'avoue qu'une terreur vague s'empara de moi, et qu'à ce moment seulement je songeai à l'imprudence et même à l'inconvenance de ma conduite. Je suivis le bord de l'étang, car je comptais demander au jardinier, brave homme, qui, lorsque j'étais venu jusque-là avec mon père, m'avait donné de magnifiques bouquets, je comptais, dis-je, demander au jardinier de me conduire, quand tout à coup la chasse se fit entendre de nouveau. Prêtant l'oreille, le bruit grandissait, j'oubliais tout. Presque au même instant, de l'autre côté de l'étang, la biche bondit hors du bois, mais poursuivie de si près qu'elle allait être atteinte. Elle était seule, son second faon avait succombé à son tour. La vue de l'eau sembla lui rendre des forces. Elle aspira la fraîcheur par ses naseaux et se lança dans l'étang comme si elle eût voulu venir à moi. D'abord elle nagea rapidement et parut avoir retrouvé toute son énergie. Je la regardai, les larmes aux yeux, les bras tendus et presque aussi haletante qu'elle, mais insensiblement ses forces s'épuisèrent, tandis qu'au contraire celles des chiens animées par la curée prochaine semblaient redoubler. Bientôt les chiens les plus acharnés l'atteignirent et elle cessa d'avancer, arrêtée qu'elle l'était par leurs morsures. En ce moment, Monsieur de Montsoreau parut à la lisière du bois, accourut jusqu'à l'étang et sauta à bas de son cheval. Alors, à mon tour, je réunis toutes mes forces pour crier « Grâce !» les mains jointes. Il me sembla qu'il m'avait aperçu. Je criai de nouveau et plus fort que la première fois. Il m'entendit, car il leva la tête et je le vis courir à un bateau dont il détacha l'amarre et avec lequel il s'avança rapidement vers l'animal qui se débattait au milieu de toute la meute qu'il avait jointe. Je ne doutais pas que, mû par ma voix, par mes gestes et par mes prières, ce ne fût pour lui porter secours que monsieur de Montsoreau se hâtait, quand tout à coup, arrivé à la portée de Daphné, je le vis tirer son couteau de chasse. Un rayon de soleil, en s'y reflétant, en fit jaillir un éclair, puis l'éclair disparut, je jetai un cri, la lame tout entière s'était plongée dans la gorge du pauvre animal. Un flot de sang jaillit, teignant en rouge l'eau de l'étang. La biche brama d'une façon mortelle et lamentable, battit l'eau de ses pieds, se dressa presque debout et retomba morte. Je poussai un cri presque aussi douloureux que le sien et je tombai évanoui sur le talus de l'étang. Quand je revins à moi, j'étais couché dans une chambre du château de Baugé et mon père, qu'on avait envoyé chercher, pleurait à mon chevet. Comme ce n'était qu'une crise nerveuse produite par la surexcitation de la course, dès le lendemain, je pus revenir à Méridor. Seulement 3 ou 4 jours, je gardai la chambre. Le quatrième, mon père me dit que pendant tout le temps que j'avais été souffrante, monsieur de Montsoreau, qui m'avait vu au moment où l'on m'emportait évanoui, était venu prendre de mes nouvelles. Il avait été désespéré lorsqu'il avait appris qu'il avait été la cause involontaire de cet accident et avait demandé à me présenter ses excuses, disant qu'il ne serait heureux que lorsqu'il entendrait sortir le pardon de ma bouche. Il eût été ridicule de refuser de le voir. Aussi, malgré ma répugnance, je cédai. Le lendemain, il se présenta. J'avais compris le ridicule de ma position. La chasse est un plaisir que partagent souvent les femmes elles-mêmes. Ce fut donc moi, en quelque sorte, qui me défendis de cette ridicule émotion et qui la rejetai sur la tendresse que je portais à Daphné. Ce fut alors le comte qui joua l'homme désespéré et qui 20 fois me jura sur son honneur que s'il eût pu deviner que je portais quelque intérêt à sa victime, il eût eu grand bonheur de l'épargner. Cependant, ces protestations ne me convainquirent point, et le comte s'éloigna sans avoir pu effacer de mon cœur la douloureuse impression qu'il y avait faite. En se retirant, le comte demanda à mon père la permission de revenir. Il était né en Espagne, il avait été élevé à Madrid. C'était pour le baron un attrait que de parler d'un pays où il était resté si longtemps. D'ailleurs, le comte était de bonne naissance, sous-gouverneur de la province, favori, disait-on, de monsieur le duc d'Anjou. Mon père n'avait aucun motif pour lui refuser cette demande qui lui fut accordée. Hélas, à partir de ce moment, cessa, sinon mon bonheur, du moins ma tranquillité. Bientôt je m'aperçus de l'impression que j'avais faite sur le comte. D'abord il n'était venu qu'une fois la semaine, puis deux, puis enfin tous les jours. Plein d'attention pour mon père, le comte lui avait plu. Je voyais le plaisir que le baron éprouvait dans sa conversation, qui était toujours celle d'un homme supérieur. Je n'osais me plaindre, car de quoi me serais-je plainte? Le comte était galant avec moi, comme avec une maîtresse, respectueux, comme avec une sœur. Un matin, mon père entra dans ma chambre avec un air plus grave que d'habitude, et cependant, sa gravité avait quelque chose de joyeux. Mon enfant, me dit-il, tu m'as toujours assuré que tu serais heureuse de ne pas me quitter. Oh, mon père, m'écriai-je, vous le savez, c'est mon vœu le plus cher. Eh bien, ma Diane, continua-t-il en se baissant pour m'embrasser au front, il ne tient qu'à toi de voir ton vœu se réaliser. Je me doutais de ce qu'il allait me dire et je pâlis si affreusement qu'il s'arrêta avant que d'avoir touché mon front de ses lèvres. Diane, mon enfant, s'écria-t-il, oh mon Dieu, qu'as-tu donc? Monsieur de Montsoreau, n'est-ce pas? Balbutiai-je. Eh bien, demanda-t-il, étonné. Oh, jamais, mon père, si vous avez quelque pitié pour votre fille, jamais. Diane, mon amour, dit-il, ce n'est pas de la pitié que j'ai pour toi, c'est de l'idolâtrie, tu le sais. Prends 8 jours pour réfléchir, et si dans 8 jours. Oh, non, 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 m'écriai-je, c'est inutile. Pas 8 jours, pas 24 heures, pas 1 minute, non, non, oh non. Et je fondis en larmes. Mon père m'adorait. Jamais il ne m'avait vu pleurer. Il me prit dans ses bras et me rassura en deux mots. Il venait de me donner sa parole de gentilhomme qu'il ne parlerait plus de ce mariage. Et effectivement, un mois se passa sans que je visse monsieur de Montsoreau et sans que j'entendisse parler de lui. Un matin, nous reçûmes, mon père et moi, une invitation de nous trouver à une grande fête que monsieur de Montsoreau devait donner aux frères du roi, qui venaient visiter la province dont il portait le nom. Cette fête avait lieu à l'hôtel de ville d'Angers. À cette lettre était jointe une invitation personnelle du prince, lequel écrivait à mon père qu'il se rappelait l'avoir vu autrefois à la cour du roi Henri et qu'il le reverrait avec plaisir. Mon premier mouvement fut de prier mon père de refuser, car certes, j'eusse insisté si l'invitation eût été faite au nom seul de monsieur de Montsoreau, mais le prince était de moitié dans l'invitation et mon père craignait, par un refus, de blesser son altesse. Nous nous rendîmes donc à cette fête, monsieur de Montsoreau nous reçut comme si rien ne s'était passé entre nous. Sa conduite vis-à-vis de moi ne fut ni indifférente ni affectée. Il me traita comme toutes les autres dames et je fus heureuse de n'avoir été de son côté l'objet d'aucune distinction, soit en bonne, soit en mauvaise part. Il n'en fut pas de même du duc d'Anjou. Dès qu'il m'aperçut, son regard se fixa sur moi pour ne plus me quitter. Je me sentais mal à l'aise sous le poids de ce regard, et sans dire à mon père ce qui me faisait désirer de quitter le bal, j'insistai de telle façon que nous nous retirâmes les premiers. 3 jours après, monsieur de Montsoreau se présenta à Méridor. Je l'aperçus de loin dans l'avenue du château, et je me retirai dans ma chambre. J'avais peur que mon père ne me fît appeler, mais il n'en fut rien. Au bout d'une demi-heure, je vis sortir monsieur de Montsoreau sans que personne m'eût prévenu de sa visite. Il y eut plus, mon père ne m'en parla point. Seulement, je crus remarquer qu'après cette visite du sous-gouverneur, il était plus sombre que d'habitude. Quelques jours s'écoulèrent encore. Je revenais de faire une promenade dans les environs lorsque on me dit, en rentrant, que monsieur de Montsoreau était avec mon père. Le baron avait demandé 2 ou 3 fois de mes nouvelles et 2 ou 3 fois aussi s'était informé avec inquiétude du lieu où je pouvais être allé. Il avait donné l'ordre qu'on le prévînt de mon retour. En effet, à peine étais-je rentré dans ma chambre que mon père accourut. Mon enfant, me dit-il, un motif dont il est inutile que tu connaisses la cause me force à me séparer de toi pendant quelques jours. Ne m'interroge pas, seulement songe que ce motif doit être bien urgent, puisqu'il me détermine à être 1 semaine, 15 jours, 1 mois peut-être, sans te voir. Je frissonnai, quoique je ne pusse deviner à quel danger j'étais exposé, mais cette double visite de monsieur de Montsoreau ne me présageait rien de bon. Et où dois-je aller, mon père? Demandai-je. Au château de Lude, chez ma sœur, où tu resteras caché à tous les yeux. Quant à ton arrivée, on veillera à ce qu'elle ait lieu pendant la nuit. Ne m'accompagnez-vous pas? Non, je dois rester ici pour détourner les soupçons. Les gens de la maison eux-mêmes ignoreront où tu vas. Mais qui me conduira donc? 2 hommes dont je suis sûr. Oh mon Dieu, mon père! Le baron m'embrassa. Mon enfant, dit-il, il le faut. Je connaissais tellement l'amour de mon père pour moi que je n'insistais pas davantage et ne lui demandais pas d'autre explication. Il fut convenu seulement que Gertrude, la fille de ma nourrice, m'accompagnerait. Mon père me quitta en me disant de me tenir prête. Le soir, à 8 heures, il faisait très sombre et très froid, car on était dans les plus longs jours de l'hiver. Mon père vint me chercher. J'étais prête, comme il me l'avait recommandé. Nous descendîmes sans bruit, nous traversâmes le jardin. Il ouvrit lui-même une petite porte qui donnait sur la forêt, et là, nous trouvâmes une litière tout attelée et 2 hommes. Mon père leur parla longtemps, me recommandant à eux, à ce qu'il me parut. Puis je pris ma place dans la litière, Gertrude s'assit près de moi. Le baron m'embrassa une dernière fois et nous nous mîmes en marche. J'ignorais quelle sorte de danger me menaçait et me forçait de quitter le château de Méridor. J'interrogeai Gertrude, mais elle était aussi ignorante que moi. Je n'osais adresser la parole à nos conducteurs que je ne connaissais pas. Nous marchions donc silencieusement et par des chemins détournés, lorsque, après 2 heures de marche environ, et au moment où, malgré mes inquiétudes, le mouvement égal et monotone de la litière commençait à m'endormir, je me sentis réveillé par Gertrude, qui me saisissait le bras. et plus encore par le mouvement de la litière qui s'arrêtait. « Oh, mademoiselle, dit la pauvre fille, que nous arrive-t-il donc ?» Je passai ma tête par les rideaux. Nous étions entourés de 6 cavaliers masqués. Nos hommes qui avaient voulu se défendre étaient désarmés et maintenus. J'étais trop épouvanté pour appeler au secours. D'ailleurs, qui serait venu à mes cris? Celui qui paraissait le chef des hommes masqués s'avança vers la portière. Rassurez-vous, mademoiselle, dit-il, il ne vous sera fait aucun mal, mais il faut nous suivre. Où cela? Demandai-je. Dans un lieu où, bien loin d'avoir rien à craindre, vous serez traitée comme une reine. Cette promesse m'épouvanta plus que n'eût fait une menace. Oh, mon père, murmurai-je. Écoutez, mademoiselle, me dit Gertrude, je connais bien les environs, je vous suis dévouée, je suis forte. Nous aurons bien du malheur si nous ne parvenons pas à fuir. Cette assurance que me donnait une pauvre suivante était loin de me tranquilliser. Cependant, c'est une si douce chose de se sentir soutenue que je repris un peu de force. Faites de nous ce que vous voudrez, messieurs, répondis-je. Nous sommes 2 pauvres femmes et nous ne pouvons nous défendre. Un des hommes descendit, prit la place de notre conducteur et changea la direction de notre litière. Bussy, comme on comprend bien, écoutait le récit de Diane avec l'attention la plus profonde. Il y a, dans les premières émotions d'un grand amour naissant, un sentiment presque religieux pour la personne qu'on commence à aimer. La femme que le cœur vient de choisir est élevée par ce choix au-dessus des autres femmes. Elle grandit, s'épure, se divinise. Chacun de ses gestes est une faveur qu'elle vous accorde, chacune de ses paroles est une grâce qu'elle vous fait. Si elle vous regarde, elle vous réjouit, si elle vous sourit, elle vous comble. Le jeune homme avait donc laissé la belle narratrice dérouler le récit de toute sa vie sans oser l'arrêter, sans avoir l'idée de l'interrompre. Chacun des détails de cette vie, sur laquelle il sentait qu'il allait être appelé à veiller, avait pour lui un puissant intérêt, et il écoutait les paroles de Diane, muet et haletant, comme si son existence eût dépendu de chacune de ses paroles. Aussi, comme la jeune femme, sans doute trop faible pour la double émotion qu'elle éprouvait à son tour, émotion dans laquelle le présent réunissait tous les souvenirs du passé, s'était arrêtée un instant, Bussy n'eut point la force de demeurer sous le poids de son inquiétude et, joignant les mains, oh, continuez, madame, dit-il, continuez. Il était impossible que Diane pût se tromper à l'intérêt qu'elle inspirait. Tout dans la voix, dans le geste, dans l'expression de la physionomie du jeune homme était en harmonie avec la prière que contenaient ses paroles. Diane sourit tristement et reprit. Nous marchâmes 3 heures à peu près. Puis la litière s'arrêta. J'entendis crier une porte, on échangea quelques paroles, la litière reprit sa marche et je sentis qu'elle roulait sur un terrain retentissant comme un pont-levis. Je ne me trompais pas. Je jetai un coup d'œil hors de la litière. Nous étions dans la cour d'un château. Quel était ce château? Ni Gertrude ni moi n'en savions rien. Souvent, pendant la route, nous avions tenté de nous orienter, mais nous n'avions vu qu'une forêt sans fin. Il est vrai que l'idée était venue à chacune de nous qu'on nous faisait, pour nous ôter toute idée du lieu où nous étions, faire dans cette forêt un chemin inutile et calculé. La porte de notre litière s'ouvrit, et le même homme qui nous avait déjà parlé nous invita à descendre. J'obéis en silence. Deux hommes, qui appartenaient sans doute au château, nous étaient venus recevoir avec des flambeaux. Comme on m'en avait fait la terrible promesse, notre captivité s'annonçait accompagnée des plus grands égards. Nous suivîmes les hommes au flambeau, ils nous conduisirent dans une chambre à coucher, richement ornée, et qui paraissait avoir été décorée à l'époque la plus brillante, comme élégance et comme style, du temps de François Ier. Une collation nous attendait sur une table somptueusement servie. Vous êtes chez vous, madame, me dit l'homme qui déjà 2 fois nous avait adressé la parole, et comme les soins d'une femme de chambre vous sont nécessaires, la vôtre ne vous quittera point. Sa chambre est voisine de la vôtre. Gertrude et moi échangeâmes un regard joyeux. Toutes les fois que vous voudrez appeler, continua l'homme masqué, vous n'aurez qu'à frapper avec le marteau de cette porte, et quelqu'un qui veillera constamment dans l'antichambre se rendra aussitôt à vos ordres. Cette apparente attention indiquait que nous étions gardés à vue. L'homme masqué s'inclina et sortit. Nous entendîmes la porte se refermer à double tour. Nous nous trouvâmes seuls, Gertrude et moi. Nous restâmes un instant immobiles, nous regardant à la lueur des deux candélabres qui éclairaient la table où était servi le souper. Gertrude voulut ouvrir la bouche. Je lui fis signe du doigt de se taire. Quelqu'un nous écoutait peut-être. La porte de la chambre qu'on nous avait désignée comme devant être celle de Gertrude était ouverte. La même idée nous vint en même temps de la visiter. Elle prit un candélabre et sur la pointe du pied nous y entrâmes tous deux. C'était un grand cabinet destiné à faire comme chambre de toilette le complément de la chambre à coucher. Il avait une porte parallèle à la porte de l'autre pièce par laquelle nous étions entrés. Cette deuxième porte, comme la première, était ornée d'un petit marteau de cuivre ciselé qui retombait sur un clou de même métal. Clous et marteaux, on eût dit que le tout était l'ouvrage de Benvenuto Cellini. Il était évident que les deux portes donnaient dans la même antichambre. Gertrude approcha la lumière de la serrure, le pêne était fermé à double tour. Nous étions prisonnières. Il est incroyable combien quand deux personnes, même de conditions différentes, sont dans une même situation et partagent un même danger, il est incroyable, dis-je, combien les pensées sont analogues et combien elles passent facilement au-dessus des éclaircissements intermédiaires et des paroles inutiles. Gertrude s'approcha de moi. « Mademoiselle a-t-elle remarqué, dit-elle à voix basse, que nous n'avions monté que 5 marches en quittant la cour ?»« Oui, répondis-je, nous sommes donc au rez-de-chaussée, sans aucun doute. » De sorte que, ajouta-t-elle plus bas, en fixant les yeux sur les volets extérieurs, de sorte que, si ces fenêtres n'étaient pas grillées, interrompis-je, oui, si mademoiselle avait du courage, ah, du courage, m'écriai-je, j'en sois tranquille, j'en aurais, mon enfant. Ce fut Gertrude qui, à son tour, mit son doigt sur sa bouche. Oui, oui, je comprends, lui dis-je. Gertrude me fit signe de rester où j'étais, et alla reporter le candélabre sur la table de la chambre à coucher. J'avais déjà compris son intention, et je m'étais rapproché de la fenêtre dont je cherchais le ressort. Je l'ai trouvé, ou plutôt Gertrude, qui était venue me rejoindre, les trouva. Le volet s'ouvrit. Je poussai un cri de joie. La fenêtre n'était pas grillée. Mais Gertrude avait déjà remarqué la cause de cette prétendue négligence de nos deux gardiens. Un large étang baignait le pied de la muraille. Nous étions gardés par 10 pieds d'eau, bien mieux que nous ne l'eussions été certainement par les grilles de nos fenêtres. Mais en se reportant de l'eau à ses rives, mes yeux reconnurent un paysage qui leur était familier. Nous étions prisonnières au château de Beauger, où plusieurs fois, comme je l'ai dit, j'étais venu avec mon père, et où, un mois auparavant, on m'avait recueilli le jour de la mort de ma pauvre Daphné. Le château de Beauger appartenait à monsieur le duc d'Anjou. Ce fut alors qu'éclairé comme par la lueur d'un coup de foudre, je compris tout. Je regardais l'étang avec une sombre satisfaction. C'était une dernière ressource contre la violence, un suprême refuge contre le déshonneur. Nous refermâmes les volets. Je me jetai tout habillé sur mon lit. Gertrude se coucha dans un fauteuil et dormit à mes pieds. 20 fois pendant cette nuit, je me réveillai en sursaut, en proie à des terreurs inouïes. Mais rien ne justifiait cette erreur que la situation dans laquelle je me trouvais. Rien n'indiquait de mauvaises intentions contre moi. On dormait au contraire. Tout semblait dormir au château, et nul autre bruit que le cri des oiseaux de marais n'interrompait le silence de la nuit. Le jour parut. Le jour, tout en enlevant au paysage ce caractère effrayant que lui donne l'obscurité, me confirma dans mes craintes de la nuit. Toute fuite était impossible sans un secours extérieur, et d'où nous pouvait venir ce secours? Vers les 9 heures, on frappa à notre porte. Je passai dans la chambre de Gertrude en lui disant qu'elle pouvait permettre d'ouvrir. Ce qui frappait et que je pouvais voir par l'ouverture de la porte de communication étaient nos serviteurs de la veille. Ils venaient enlever le souper auquel nous n'avions pas touché et apporter le déjeuner. Gertrude leur fit quelques questions auxquelles ils sortirent sans avoir répondu. Je rentrai alors. Tout m'était expliqué par notre séjour au château de Beauger et par le prétendu respect qui nous entourait. Monsieur le duc d'Anjou m'avait vu à la fête donnée par monsieur de Montsoreau. Monsieur le duc d'Anjou était devenu amoureux de moi. Mon père avait été prévenu et avait voulu me soustraire aux poursuites dont j'allais sans doute être l'objet. Il m'avait éloigné de Méridor, mais trahi, soit par un serviteur infidèle, soit par un hasard malheureux, sa précaution avait été inutile et j'étais tombé aux mains de l'homme auquel il avait tenté vainement de me soustraire. Je m'arrêtai à cette idée, la seule qui fût vraisemblable et en réalité la seule qui fût vraie. Sur les prières de Gertrude, je bus une tasse de lait et mangeai un peu de pain. La matinée s'écoula à faire des plans de fuite insensés, et cependant, à 100 pas devant nous, amarrés dans les roseaux, nous pouvions voir une barque toute garnie de ses avirons. Certes, si cette barque eût été à notre portée, mes forces, exaltées par la terreur, jointes aux forces naturelles de Gertrude, eussent suffi pour nous tirer de notre captivité. Pendant cette matinée, rien ne nous troubla. On nous servit le dîner comme on nous avait servi le déjeuner. Je tombai de faiblesse. Je me mis à table, servi par Gertrude seulement, car dès que nos gardiens avaient déposé nos repas, ils se retiraient. Mais tout à coup, en brisant mon pain, je mis à jour un petit billet. Je l'ouvris précipitamment. Il contenait cette seule ligne: un ami veille sur vous, demain vous aurez de ses nouvelles et de celles de votre père. On comprend quelle fut ma joie. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. Je montrai le billet à Gertrude. Le reste de la journée se passa à attendre et à espérer. La seconde nuit s'écoula aussi tranquille que la première, puis vint l'heure du déjeuner, attendu avec tant d'impatience, car je ne doutais point que je ne trouvasse dans mon pain un nouveau billet. Je ne me trompais pas, le billet était conçu en ces termes: la personne qui vous a enlevé arrive au château de Baugé ce soir à 10 heures, mais à 9, l'ami qui veille sur vous sera sous vos fenêtres, avec une lettre de votre père qui vous commandera la confiance que sans cette lettre vous ne lui accorderiez peut-être pas. Brûlez ce billet. Je lus et relus cette lettre, puis je la jetai au feu selon la recommandation qu'elle contenait. L'écriture m'était complètement inconnue et, je l'avoue, j'ignorais d'où elle pouvait venir. Nous nous perdîmes en conjectures, Gertrude et moi. 100 fois, pendant la matinée, nous allâmes à la fenêtre pour regarder si nous n'apercevions personne sur les rives de l'étang et dans les profondeurs de la forêt. Tout était solitaire. Une heure après le dîner, on frappa à notre porte. C'était la première fois qu'il arrivait que l'on tentât d'entrer chez nous à d'autres heures qu'à celles de nos repas. Cependant, comme nous n'avions aucun moyen de nous enfermer en dedans, force nous fut de laisser entrer. C'était l'homme qui nous avait parlé à la porte de la litière et dans la cour du château. Je ne pus le reconnaître au visage, puisqu'il était masqué lorsqu'il nous parla, mais aux premières paroles qu'il prononça, je le reconnus à la voix. Il me présenta une lettre. De quelle part venez-vous, monsieur? Lui demandai-je. Que mademoiselle se donne la peine de lire, me répondit-il, et elle verra. Mais je ne veux pas lire cette lettre ne sachant pas de qui elle vient. Mademoiselle est maîtresse de faire ce qu'elle voudra. J'avais ordre de lui remettre cette lettre. Je dépose cette lettre à ses pieds. Si elle daigne la ramasser, elle la ramassera. Et en effet, le serviteur, qui paraissait un écuyer, plaça la lettre sur le tabouret où je déposais mes pieds et sortit. Que faire? Demandai-je à Gertrude. Si j'osais donner un conseil à mademoiselle, ce serait de lire cette lettre. Peut-être contient-elle l'annonce de quelque danger auquel, prévenus par elle, nous pourrons nous soustraire. Le conseil était si raisonnable que je revins sur la résolution prise d'abord et que j'ouvris cette lettre. Diane, à ce moment, interrompit son récit, se leva, ouvrit un petit meuble du genre de ceux auxquels nous avons conservé le nom italien de stipo, et d'un portefeuille de soie tira une lettre. Bussy jeta un coup d'œil sur l'adresse. « À la belle Diane de Méridor, lut-il. Puis, regardant la jeune femme, « Cette lettre, dit-il, est de la main du duc d'Anjou. »« Ah, répondit-elle avec un soupir, il ne m'avait donc pas trompé. » Puis, comme Bussy hésitait à ouvrir la lettre, Lisez, dit-elle, le hasard vous a poussé du premier coup au plus intime de ma vie, je ne dois plus avoir de secret pour vous. Bussy obéit et lut. Un malheureux prince que votre beauté divine a frappé au cœur viendra vous faire ce soir à 10 heures ses excuses de sa conduite à votre égard, conduite qui, lui-même le sent bien, n'a d'autre excuse que l'amour invincible qu'il éprouve pour vous. Signé François. Ainsi, cette lettre était bien du duc d'Anjou, demanda Diane. Hélas oui, répondit Bussy, c'est son écriture et son sein. Diane soupira. Serait-il moins coupable que je ne le croyais? Murmura-t-elle. Mais qui, le prince? Demanda Bussy. Non, lui, le comte de Montsoreau. Ce fut Bussy qui soupira à son tour. Continuez, madame, dit-il, et nous jugerons le prince et le comte. Cette lettre, que je n'avais alors aucun motif de ne pas croire réelle, puisqu'elle s'accordait si bien avec mes propres craintes, m'indiquait, comme l'avait prévu Gertrude, le danger auquel j'étais exposé, et me rendait d'autant plus précieuse l'intervention de cet ami inconnu qui m'offrait son secours au nom de mon père. Je n'eus donc plus d'espoir qu'en lui. Nos investigations recommençaient, mes regards et ceux de Gertrude, plongeant à travers les vitres, ne quittaient point l'étang et cette partie de la forêt qui faisait face à nos fenêtres. Dans toute l'étendue que nos regards pouvaient embrasser, nous ne vîmes rien qui parût se rapporter à nos espérances et les seconder. La nuit arriva, mais comme nous étions au mois de janvier, la nuit venait vite. 4 ou 5 heures nous séparaient donc encore du moment décisif. Nous attendîmes avec anxiété. Il faisait une de ces belles gelées d'hiver pendant lesquelles, si ce n'était le froid, on se croirait vers la fin du printemps ou vers le commencement de l'automne. Le ciel brillait, tout parsemé de 1000 étoiles, et dans un coin de ciel, la lune, pareille à un croissant, éclairait le paysage de sa lueur argentée. Nous ouvrîmes la fenêtre de la chambre de Gertrude, qui devait, dans tous les cas, être moins rigoureusement observée que la mienne. Vers 7 heures, une légère vapeur monta de l'étang, mais, pareille à un voile de gaze transparente, cette vapeur n'empêchait pas de voir, ou plutôt nos yeux, s'habituant à l'obscurité, étaient parvenus à percer cette vapeur. Comme rien ne nous aidait à mesurer le temps, nous n'aurions pas pu dire quelle heure il était, lorsqu'il nous sembla, sur la lisière du bois, voir à travers cette transparente obscurité se mouvoir des ombres. Ces ombres paraissaient s'approcher avec précaution, gagnant les arbres qui, rendant les ténèbres plus épaisses, semblaient les protéger. Peut-être eussions-nous cru, au reste, que ces ombres n'étaient qu'un jeu de notre vue fatiguée, lorsque le hennissement d'un cheval traversa l'espace et arriva jusqu'à nous. « Ce sont nos amis, » murmura Gertrude. « Ou le prince, » répondis-je. « Oh, le prince, » dit-elle, « le prince ne se cacherait pas. » Cette réflexion si simple dissipa mes soupçons et me rassura. Nous redoublâmes d'attention. Un homme s'avança, seul. Il me semblait qu'il quittait un autre groupe d'hommes, lequel était resté à l'abri sous un bouquet d'arbres. Cet homme marcha droit à la barque, la détacha du pieu où elle était amarrée, descendit dedans, et la barque, glissant sur l'eau, s'avança silencieusement de notre côté. À mesure qu'elle s'avançait, mes yeux faisaient des efforts plus violents pour percer l'obscurité. Il me sembla d'abord reconnaître la grande taille, puis les traits sombres et fortement accusés du comte de Montsoreau. Enfin, lorsqu'il fut à 10 pas de nous, je ne conservais plus aucun doute. Je craignais maintenant presque autant le secours que le danger. Je restais muette et immobile, rangée dans l'angle de la fenêtre, de sorte qu'il ne pouvait me voir. Arrivé au pied du mur, il arrêta sa barque à un anneau, et je vis apparaître sa tête à la hauteur de l'appui de la croisée. Je ne pus retenir un léger cri. Ah, pardon, dit le comte de Montsoreau, je croyais que vous m'attendiez. C'est-à-dire que j'attendais quelqu'un, monsieur, répondis-je, mais j'ignorais que ce quelqu'un fût vous. Un sourire amer passa sur le visage du comte. Qui donc, excepté moi et son père, veille sur l'honneur de Diane de Méridor? Vous m'avez dit, monsieur, dans la lettre que vous m'aviez écrite, que vous veniez au nom de mon père. Oui, mademoiselle, et comme j'ai prévu que vous douteriez de la mission que j'ai reçue, voici un billet du baron. Et le comte me tendit un papier. Nous n'avions allumé ni bougie ni candélabre pour être plus libres de faire dans l'obscurité tout ce que commanderaient les circonstances. Je passais de la chambre de Gertrude dans la mienne, je m'agenouillais devant le feu, et à la lueur de la flamme du foyer, je lus. Ma chère Diane, monsieur le comte de Montsoreau peut seul t'arracher au danger que tu cours, et ce danger est immense. Fie-toi donc entièrement à lui, comme au meilleur ami que le ciel nous puisse envoyer. Il te dira plus tard ce que, du fond de mon cœur, je désirerais que tu fisses pour acquitter la dette que nous allons contracter envers lui. Ton père qui te supplie de le croire, d'avoir pitié de toi et de lui, baron de Méridor. Rien de positif n'existait dans mon esprit contre monsieur de Montsoreau. La répulsion qu'il m'inspirait était plutôt instinctive que raisonnée. Je n'avais à lui reprocher que la mort d'une biche, et c'était un crime bien léger pour un chasseur. J'allai donc à lui. Eh bien, demanda-t-il, monsieur, j'ai lu la lettre de mon père. Il me dit que vous êtes prêt à me conduire hors d'ici, mais il ne me dit pas où vous me conduisez. Je vous conduis où le baron vous attend, mademoiselle. Et où m'attend-il? Au château de Méridor. Ainsi, je vais revoir mon père dans 2 heures. Ah, monsieur, si vous dites vrai. Je m'arrêtai. Le comte attendait visiblement la fin de ma phrase. Comptez sur toute ma reconnaissance, ajoutai-je d'une voix tremblante et affaiblie, car je devinais quelle chose il pouvait attendre de cette reconnaissance que je n'avais pas la force de lui exprimer. Alors, mademoiselle, dit le comte, vous êtes prête à me suivre? Je regardai Gertrude avec inquiétude. Il était facile de voir que cette sombre figure du comte ne la rassurait pas plus que moi. Réfléchissez que chaque minute qui s'envole est précieuse pour vous, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, dit-il. Je suis en retard d'une demi-heure à peu près. Il va être 10 heures bientôt, et n'avez-vous pas reçu l'avis qu'à 10 heures le prince serait au château de Baugé? Je la suis, répondis-je. Le prince, une fois ici, je ne puis plus rien pour vous que risquer sans espoir ma vie, que je risque en ce moment avec la certitude de vous sauver. Et pourquoi mon père n'est-il donc pas venu? Pensez-vous que votre père ne soit pas entouré? Pensez-vous qu'il puisse faire un pas sans qu'on sache où il va? Mais vous, demandai-je, mais moi, c'est autre chose, je suis l'ami, le confident du prince. Mais monsieur, m'écriai-je, si vous êtes l'ami, si vous êtes le confident du prince, alors je le trahis. Pour vous, oui, c'est bien cela. Aussi vous disais-je tout à l'heure que je risquais ma vie pour sauver votre honneur. Il y avait un tel accent de conviction dans cette réponse du comte, elle était si visiblement en accord avec la vérité, que tout en éprouvant un reste de répugnance à me confier à lui, je ne trouvais pas de mots pour exprimer cette répugnance. J'attends, dit le comte. Je regardais Gertrude, aussi indécise que moi. Tenez, me dit monsieur de Montsoreau, si vous doutez encore, regardez de ce côté. Et du côté opposé à celui par lequel il était venu, longeant l'autre rive de l'étang, il me montra une troupe de cavaliers qui s'avançait vers le château. Et qui sont ces hommes? demandai-je. C'est le duc d'Anjou et sa suite, répondit le comte. Mademoiselle, mademoiselle, dit Gertrude, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y en a déjà que trop de perdus, dit le comte. Au nom du ciel, décidez-vous donc. Je tombai sur une chaise, les forces me manquaient. Oh, mon Dieu, que faire? murmurai-je. Écoutez, dit le comte, écoutez, il frappe à la porte. En effet, on entendit retentir le marteau sous la main de 2 hommes que nous avions vus se détacher du groupe pour prendre les devants. Dans 5 minutes, dit le comte, il ne sera plus temps. J'essayai de me lever, mes jambes faiblirent. À moi, Gertrude, balbutiai-je, à moi. Mademoiselle, dit la pauvre fille, entendez-vous la porte qui s'ouvre? Entendez-vous les chevaux qui piétinent dans la cour? Oui, répondis-je en faisant un effort, mais les forces me manquent. Oh, ce n'est que cela, dit-elle, et elle me prit dans ses bras, me souleva comme elle l'eût fait d'un enfant, et me remit dans les bras du comte. En sentant l'attouchement de cet homme, je frissonnai si violemment que je faillis lui échapper et tomber dans le lac. Mais il me serra contre sa poitrine et me déposa dans le bateau. Gertrude m'avait suivi et était descendue sans avoir besoin d'aide. Alors je m'aperçus que mon voile s'était détaché et flottait sur l'eau. L'idée me vint qu'il indiquerait notre trace. Mon voile, dis-je au comte, attrapez donc mon voile. Le comte jeta un coup d'œil vers l'objet que je lui montrais du doigt. Non, dit-il, mieux vaut que cela soit ainsi. Et saisissant les avirons, il donna une si violente impulsion à la barque qu'en quelques coups de rame, nous nous trouvâmes près d'atteindre la rive de l'étang. En ce moment, nous vîmes les fenêtres de ma chambre s'éclairer. Des serviteurs entraient avec des lumières. Vous ai-je trompé? Dit monsieur de Montsoreau, et était-il temps? Oh, oui, monsieur, lui dis-je, vous êtes bien véritablement mon sauveur. Cependant, les lumières couraient avec agitation, tantôt dans ma chambre, tantôt dans celle de Gertrude. Nous entendîmes des cris, un homme entra, devant lesquels s'écartèrent tous les autres. Cet homme s'approcha de la fenêtre ouverte, se pencha au dehors, aperçut un voile flottant sur l'eau et poussa un cri. Voyez-vous que j'ai bien fait de laisser là ce voile, dit le comte. Le prince croira que, pour lui échapper, vous vous êtes jeté dans le lac, et tandis qu'il vous fera chercher, nous fuirons. C'est alors que je tremblais réellement devant les sombres profondeurs de cet esprit qui, d'avance, avait compté sur un pareil moyen. En ce moment, nous abordâmes.